Plutarque, vie des hommes illustres, Caius Julius César, la mort de César. Mais ce qui fit éclater surtout la haine contre lui et décida sa mort, ce fut le désir qu'il eut de se faire déclarer roi. De là naquit l'aversion que le peuple lui porta depuis et le prétexte le plus spécieux que ses ennemis secrets puissent saisir. Ce qui voulait lui faire décerner cet honneur allait semant dans le public que, d'après les livres sibyllins, les Parthes seraient soumis par les armées romaines lorsqu'elles seraient commandées par un roi. Mais autrement n'entreraient jamais dans leur pays. Un jour, qu'il revenait d'Alba Rome, ils eurent l'audace de le saluer du nom de roi. Cette tentative ne fit que soulever des murmures parmi le peuple, et César s'écria d'un ton fâché : « Je ne m'appelle pas roi, mais César !» Ce mot fut suivi d'un silence profond de la part de tous les assistants, et César continua son chemin fort triste et fort mécontent. Un jour que le Sénat lui avait décerné des honneurs extraordinaires, les consuls et les prêteurs, suivis de tout le Sénat, se rendirent au forum, où il était assis dans la tribune, pour lui faire part du décret. Il ne se leva point à leur arrivée. Il leur donna audience, comme s'il l'eût fait à de simples particuliers, et répondit qu'il fallait réduire ses honneurs plutôt que de les augmenter. Cette conduite n'affligea pas seulement le Sénat, mais le peuple lui-même, qui crut voir Rome méprisée dans la personne des sénateurs. Tous ceux qui n'étaient pas obligés de rester s'en retournèrent à l'instant même, accablés d'une même douleur. César s'en aperçut et rentra sur le champ dans sa maison. Là, se découvrant la gorge, il cria à ses amis qu'il était prêt à la présenter au premier qui voudrait le tuer. Ensuite, il s'excusa de l'inconvenance de sa conduite sur sa maladie ordinaire. « Ces gars sont attaqués, disait-il, perdent l'usage de leur sens quand ils parlent debout devant une assemblée nombreuse. Saisis d'abord d'un tremblement général, ils éprouvent des éblouissements et des vertiges qui les privent de toute connaissance. » Mais cette excuse était fausse, car il avait voulu se lever devant le Sénat. Mais il en fut empêché, dit-on, par un de ses amis, ou plutôt de ses flatteurs, Cornelius Balbus, qui lui dit « Mais ne te souviens-tu pas que tu es César, et veux-tu rejeter les honneurs dus à ta dignité ?» À tous ces sujets de mécontentement vint se joindre l'outrage qu'il fit aux tribuns du peuple. C'était le jour de la fête des Lupercales, qui, selon plusieurs écrivains, fut anciennement une fête de bergers et a quelque rapport avec les lycéennes d'Arcadie. Ce jour-là, les jeunes gens de famille noble et la plupart des magistrats courent nus par la ville, armés de bandes de cuir qui ont tous leurs poils et dont ils frappent, par manière de jeu, les personnes qu'ils rencontrent. Les femmes, même les plus distinguées par leur naissance, vont au-devant d'eux et tendent la main à leur cou, comme font les enfants dans les écoles, persuadées que c'est un moyen sûr pour les femmes grosses d'accoucher heureusement, et pour les stériles d'avoir des enfants. César assistait à la fête, assis dans la tribune sur un siège d'or et vêtu d'une robe triomphale. Antoine, en sa qualité de consul, était un de ceux qui figuraient dans la course sacrée. Quand il arriva sur le forum, et que la foule se fut ouverte pour lui donner passage, il s'approcha de César et lui présenta un diadème enlacé d'une branche de laurier. On entendit à ce moment qu'un battement de main faible et sourd qui venait des gens apostés. Mais César, ayant repoussé la main d'Antoine, tout le peuple l'applaudit. Antoine lui présenta une seconde fois le diadème, et très peu de personnes battirent des mains. César le repoussa encore, et la place retentit d'applaudissements universels. Convaincu par cette épreuve des dispositions du peuple, César se lève et commande qu'on porte ce diadème au Capitole. Quelque temps après, on vit ces statues couronnées d'un bandeau royal. Deux tribuns du peuple, Flavius et Manulus, allèrent sur les lieux arracher ces diadèmes. Ayant rencontré ceux qui, les premiers, avaient salué César roi, ils les arrêtèrent et les conduisirent en prison. Le peuple suivait ces magistrats en battant des mains et les appelait des Brutus, parce que c'était Brutus qui avait détruit jadis la royauté et transféré des mains d'un seul le pouvoir souverain au Sénat et au peuple. César, irrité de cet affront, dépouilla Marullus et Flavius de leur charge et mêla ses accusations contre les tribuns, des insultes contre le peuple lui-même en appelant les Romains à plusieurs reprises des Brutes et des Cuméens. Cet événement attira les regards de la multitude sur Marcus Brutus. Cet événement attira les regards de la multitude sur Marcus Brutus. Il passait pour être, du côté paternel, un descendant de l'ancien Brutus. Par sa mère, il était de la famille Servilia, autre maison non moins illustre. Il était d'ailleurs neveu et gendre de Caton. Ce qui émoussait en lui le désir de ruiner la monarchie, c'étaient les honneurs et les bienfaits qu'il avait reçus de César. Donc, autant de lui avoir donné la vie après la bataille de Pharsale et la fuite de Pompée, et d'avoir, à sa prière, sauvé plusieurs de ses amis, César lui témoignait une entière confiance. Il lui avait conféré, cette année même, la préture la plus honorable et l'avait désigné consul pour 4 ans, après, de préférence à Cassius, son compétiteur. César avoua, dit-on dans cette occasion, que Cassius apportait de meilleurs titres, mais qu'il ne pouvait le faire passer avant Brutus. Et lorsqu'on lui dénonça comme engagé dans la conjuration qui se tramait déjà, il ajouta parfois à cette accusation. Mais se prenant la peau du corps avec la main, « Mais ce corps, dit-il, attend Brutus !» faisant entendre par là que la vertu de Brutus le rendait digne de régner, mais que, pour régner, il ne deviendrait pas ingrat et criminel. Cependant, ceux qui désiraient un changement, et qui avaient les yeux sur Brutus seul, ou du moins sur lui, plutôt que sur tout autre, n'osaient pas, la vérité, lui en parler ouvertement. Mais, la nuit, il couvrait le tribunal et le siège où il rendait la justice comme prêteur de billets conçus, la plupart en ces termes « Tu dors, Brutus, tu n'es pas Brutus !» Cassius s'aperçut que ses reproches réveillaient insensiblement chez Brutus l'amour de la gloire. Il le pressa plus vivement qu'il n'avait fait encore, car il avait contre César des motifs particuliers de haine que nous avons fait connaître dans la vie de Brutus. Aussi César, qui avait des soupçons sur le compte de Cassius, dit-il un jour à ses amis « Qui croyez-vous que projette Cassius ? Oh, pour moi, il ne me plaît guère, je le trouve très pâle. » Et une autre fois, on accusait auprès de lui Antoine et Dolabella de machiner des nouveautés. « Oh, je ne crois pas beaucoup, dit-il, ces gens gras et bien peignés, mais plutôt ces hommes pâles et maigres. » Il désignait Brutus et Cassius. « Mais il est bien plus facile, ce semble, de prévoir sa destinée que de l'éviter. » Car celle de César fut annoncée, dit-on, par des présages extraordinaires et des apparitions. Il peut bien être que, dans un événement de cette importance, les feux célestes, les bruits nocturnes qu'on entendit en plusieurs endroits, les oiseaux solitaires qui vinrent en plein jour se poser sur le forum, ne méritent pas d'être remarqués. Mais, au rapport de Strabon, le philosophe, on vit en l'air des hommes de feu marcher les uns contre les autres. Le valet d'un soldat fit jaillir de sa main une flamme très vive. On eût dit que la main brûlait. Mais quand la flamme fut éteinte, L'homme n'avait aucune trace de brûlure. Dans un sacrifice que César offrait, on ne trouva point de cœur à la victime. Et c'était un prodige effrayant, car il est contre nature qu'un animal puisse subsister sans cœur. Plusieurs personnes racontent encore aujourd'hui qu'un devin avertit César de se mettre en garde contre un grand danger dont il était menacé pour le jour que les Romains appellent les Ides de Mars. Et que ce jour-là, César, allant au Sénat, rencontra le devin, le salua, et lui dit en plaisantant de la prédiction, « Eh bien, voilà les Ides de Mars venus !»« Oui, lui répondit tout bas le devin, elles sont venues, mais elles ne sont pas passées. » La veille du même jour, il soupait chez Lépidus, et suivant sa coutume, il signait des lettres à table. On proposa dans la conversation la question « Quelle mort était la meilleure ?» César, prévenant toutes les réponses, dit tout haut « Oh, c'est la moins attendue !» Après le souper, comme il était couché avec sa femme à son ordinaire, toutes les portes et les fenêtres de la chambre s'ouvrirent tout à coup d'elles-mêmes. Réveillé en sursaut par le bruit et par la clarté de la lune, il entendit sa femme Calpurnia, qui dormait d'un sommeil profond, pousser des gémissements confus et prononcer des mots inarticulés. Calpurnia rêvait qu'elle pleurait son époux et le tenait égorgé dans ses bras. Selon d'autres, telle n'avait pas été la vision de Calpurnia. Le Sénat, dit Tite-Live, avait fait placer par un décret au fait de la maison de César un pinacle qui était comme un ornement et une distinction. Calpurnia avait songé que ce pinacle était brisé, et c'était là le sujet de ses gémissements et de ses larmes. Quand le jour parut, elle conjura César de ne pas sortir, s'il lui était possible ce jour-là, et de remettre l'assemblée du Sénat. « Si tu fais peu d'attention à mes songes, ajouta-t-elle, aie du moins recours à d'autres divinations, et consulte les entrailles des victimes pour connaître l'avenir. » Les alarmes de Calpurnia donnèrent des soupçons et des craintes à César. Il n'avait jamais remarqué jusque-là dans sa femme les faiblesses ordinaires à son sexe, ni aucun sentiment superstitieux, et il la voyait alors en proie aux plus vives inquiétudes. Les devins, après plusieurs sacrifices, déclarèrent que les signes lui étaient défavorables. Et il se décida à envoyer Antoine au Sénat pour congédier l'Assemblée. Sur ces entrefaites arrive Decimus Brutus, surnommé Albinus, en qui César avait une telle confiance qu'il avait institué son second héritier. Il était un des complices de la conjuration de l'autre Brutus et de Cassius. Et craignant que, si César ne tenait pas à l'Assemblée ce jour-là, la trame ne fût découverte, il fit des plaisanteries sur les devins et remontra vivement à César quel sujet de plainte et de reproche il fournirait au Sénat, qui venait dans cette remise une atteinte à sa dignité. « C'est sur ta convocation, dit-il, que les sénateurs se sont assemblés. Tous sont disposés à te déclarer roi de toutes les provinces situées hors de l'Italie et à te permettre de porter le diadème partout ailleurs qu'à Rome, sur terre et sur mer. » Et si maintenant qu'ils sont assis à leur place, quelqu'un vient leur dire de se retirer et de revenir un autre jour, ou Calpurnia aura eu de plus favorables songes, quels propos ne vont pas tenir les envieux? Et qui voudra écouter tes amis lorsqu'ils diront que ce n'est pas la servitude et tyrannie? Si toutefois, ajouta-t-il, tu crois ce jour vraiment néfaste, le meilleur parti, c'est encore de te rendre toi-même au Sénat pour déclarer que tu remets l'Assemblée à un autre jour. » En disant ces mots, il prend César par la main et le fait sortir. César avait à peine passé le seuil de sa porte qu'un esclave étranger, qui voulait absolument lui parler, n'ayant pu percer la foule et arriver jusqu'à lui, alla se jeter dans sa maison et se remit aux mains de Calpurnia, la priant de le garder jusqu'au retour de César. à qui il avait des choses importantes à communiquer. Artemidore de Cnide, qui enseignait à Rome les lettres grecques, et qui se trouvait par là dans des rapports fréquents avec quelques-uns des complices de Brutus, et savait une partie de la conjuration, vint pour remettre à César un papier où était détaillé ce qu'il voulait lui révéler. Mais voyant que César, à mesure qu'il recevait chaque écrit, le remettait au lecteur qui l'entourait, il s'approcha de plus près qu'il lui fut possible, et en présentant le sien, « César, dit-il, lis ce papier seul et promptement. Il s'y agit de choses importantes et qui t'intéressent personnellement. » César le prit de sa main et essaya plusieurs fois de le lire, mais il en fut toujours empêché par la foule de ceux qui venaient lui parler. Il entra dans le Sénat, tenant toujours à la main ce papier, le seul qu'il eût gardé. Quelques-uns disent qu'Artemidore, sans cesse repoussé dans leur chemin par la foule, n'avait pu arriver lui-même jusqu'à César, et lui avait fait remettre ce papier par un autre. Mais les circonstances peuvent avoir été l'effet du hasard. On ne saurait en dire autant du lieu où le Sénat fut assemblé ce jour-là et où se passa cette scène sanglante. Il y avait dans la salle une statue de Pompée, et la salle elle-même était un des édifices que Pompée avait dédié et qui servait d'ornement à son théâtre. Preuve évidente qu'un dieu conduisait l'entreprise et avait marqué cet édifice pour le lieu de l'exécution. On dit même que Cassius, avant de mettre la main à l'œuvre, porta ses yeux sur la statue de Pompée et l'invoqua en silence, quoiqu'il fût d'ailleurs dans les sentiments d'Épicure. Mais la vue du danger présent pénétra son âme d'un vif sentiment d'enthousiasme et lui fit démentir ses anciennes opinions. Antoine, qui était tout dévoué à César et dont on craignait la vigueur extraordinaire, fut retenu par Albinus, qui engagea à dessein avec lui une longue conversation. Lorsque César entra, les sénateurs se levèrent pour lui faire honneur. Des complices de Brutus, les uns se rangèrent derrière le siège de César, les autres allèrent au-devant de lui, pour joindre leur prière à celle de Tullius Cimbert, qui demandait le rappel de son frère exilé, et ils l'accompagnèrent jusqu'à son siège, en lui faisant de vives instances. Il s'assit en rejetant leur prière, et comme il le pressait plus vivement encore, il leur témoigna à chacun en particulier son mécontentement. Alors Tullius lui prit la toge de ses deux mains et lui découvrit le haut des épaules, ce qui était le signal de l'attaque. Casca, le premier, le frappa de son épée près du cou. Mais sa faiblesse ne fut pas mortelle, le fer n'ayant pas pénétré bien avant. Il y a apparence que, chargé de commencer une si hardie entreprise, il se sentit troublé. César se tourne vers lui, saisit l'épée et en suspend les coups. Ils s'écrièrent tous deux en même temps. César en latin, scélérat de Casca, que fais-tu? Et Casca en grec, s'adressant à son frère, mon frère, mon secours! Au premier moment, tous ceux qui n'étaient pas dans le secret du complot furent saisis d'horreur. Et, frissonnant de tout leur corps, ils n'osèrent ni prendre la fuite, ni défendre César, ni même proférer une parole. Cependant, les conjurés, tirant chacun leur épée, environnent César de tous côtés. De quelque part qu'ils se tournent, ils ne trouvent que des épées qui le frappent aux yeux et au visage. Telle qu'une bête féroce assaillie par les chasseurs, il se débattait entre toutes ses mains armées contre lui, car chacun voulait avoir sa part au meurtre et goûter à son sang, comme aux libations d'un sacrifice. Et Brutus lui-même lui porta un coup dans l'aine. César, qui se défendait contre les autres et traînait son corps çà et là en poussant de grands cris, n'eût pas plutôt vu, dit-on, Brutus, l'épée nue à la main, qui se couvrit la tête de sa robe et s'abandonna au fer des conjurés. Soit hasard, soit dessein formé de la part des meurtriers, il fut repoussé jusqu'au piédestal de la statue de Pompée qui fut couverte de son sang. Il semblait que Pompée présidât la vengeance qu'on tirait de son ennemi, étendu à ses pieds et expirant sous les nombreuses blessures qu'il avait reçues. Il fut percé, dit-on, de 23 coups, et plusieurs des conjurés se blessèrent les uns les autres en frappant tous à la fois sur un seul homme. Quand César fut achevé, Brutus s'avança au milieu du Sénat pour rendre raison de ce qui venait de s'accomplir. Mais les sénateurs n'eurent pas la force de l'entendre. Ils s'enfuirent précipitamment par les portes et jetèrent parmi le peuple le trouble et l'effroi. On ferme les maisons, on abandonne les banques et ses comptoirs, partout des gens qui courent, les uns allant au Sénat pour voir cet affreux spectacle, les autres revenant après l'avoir vu. Antoine et Lépidus, les deux plus grands amis de César, s'échappent secrètement et cherchent un asile dans les maisons étrangères. Mais Brutus et ses complices, encore tout fumant du meurtre, l'épée nue à la main, sortent tous ensemble du Sénat et prennent le chemin du Capitole, non point avec l'air de gens qui fuient, mais avec un visage serein et plein d'une entière confiance. Ils appelaient le peuple à sa liberté et s'arrêtaient à parler aux nobles qu'ils rencontraient sur leur passage. Il y en eut même qui montèrent avec eux pour faire croire qu'ils avaient pris part à l'action et en usurpé la gloire. De ce nombre furent Caius Octavius et Lentulus Sminter, qui dans la suite furent bien punis de leur vanité. Antoine et le jeune César les firent mettre à mort. Oh, ils ne jouirent pas même de l'honneur qu'ils avaient ambitionné. Personne ne crut qu'ils eussent trempé dans le meurtre, et ceux-là même qui les condamnèrent punirent en eux non l'exécution du crime, mais l'intention. Le lendemain, Brutus et les autres conjurés se rendirent au forum et parlèrent au peuple, qui les écouta sans donner aucun signe de blâme ni d'approbation, témoignant à la fois par son profond silence et sa pitié pour César et son respect pour Brutus. Le Sénat prononça une amnistie générale de tout le passé et décréta qu'on rendrait à César les honneurs divins et qu'on ne chargerait pas la moindre chose aux ordonnances qu'il avait faites pendant sa dictature. Il distribua à Brutus et à ses complices des gouvernements et leur décerna des honneurs convenables. Aussi tout le monde put-il se figurer que les affaires étaient arrangées et la République remise dans le meilleur état. Mais quand on eut ouvert le testament de César et qu'on y eut lu qu'il laissait à chaque Romain un legs considérable, quand on eut vu porter à travers le forum son corps déchiré de plaies, la multitude, violemment agitée, ne sut plus se contenir. On se précipite, on amoncelle les bancs, les barrières et les tables du marché, on en forme un bûcher sur la place même et on y brûle le cadavre. Prenant ensuite des tisons enflammés, ils couraient aux maisons des meurtriers pour y mettre le feu. Plusieurs même se répandirent dans la ville, cherchant les conjurés eux-mêmes afin de les mettre en pièces. Mais on ne les put découvrir parce qu'ils se tinrent bien enfermés. Un des amis de César, nommé Cinna, avait eu, dit-on, la nuit précédente, un songe extraordinaire. Il avait cru voir César qui l'invitait à souper et qui, sur son refus, l'avait pris par la main et l'avait entraîné malgré sa résistance. Apprenant qu'on brûlait sur la place publique le corps de César, il se leva. Et tout inquiet qu'il fût du songe qu'il avait eu, et quoique malade de la fièvre, il courut pour lui rendre les derniers honneurs. Dès qu'il parut sur le forum, Quelqu'un du peuple le nomma à un citoyen qui lui demandait son nom. Celui-ci dit ce nom à un autre, et bientôt il courut dans toute la ville que c'était un des meurtriers de César. Il y avait en effet un des conjurés qui s'appelait Sinna. Le peuple, prenant cet homme pour le meurtrier, se jeta sur lui et le mit en pièces sur la place même. Effrayés de cet exemple, Brutus et les siens sortirent de la ville peu de jours après. J'ai écrit dans la vie de Brutus ce qu'ils firent depuis et les malheurs qu'ils éprouvèrent. César, Brut, âgé de 56 ans, et n'avait survécu guère que de 4 ans à Pompée. Cette domination, ce pouvoir souverain qu'il n'avait cessé de poursuivre durant toute sa vie, à travers tant de dangers et qu'il avait obtenu avec tant de peine, ne lui procura l'autre fruit qu'en vain, titre et cette gloire qu'il exposa en but à la haine de ses concitoyens. Il est vrai que le génie puissant qu'il avait conduit pendant sa vie le suivit encore après sa mort. Vengeur acharné, il s'attacha sur les pas de ses meurtriers, et par terre et par mer, jusqu'à ce qu'il ne restât plus un seul de ceux qui avaient trempé les mains dans son sang, ou même qui n'avaient fait qu'approuver le complot. Admirons surtout, parmi les signes humains, l'aventure de Cassius qui, vaincu à Philippe, se tua sur la même épée dont il avait frappé César, et parmi les phénomènes célestes, cette grande comète qui, après le meurtre de César, brilla avec tant d'éclat pendant 7 nuits et disparut ensuite, et l'obscurcissement de la lumière du soleil. Cet astre se leva fort pâle toute cette année-là, et n'envoyait, au lieu de rayons étincelants, une lueur terne et une chaleur languissante. L'air demeura toujours ténébreux et épais par la débilité de la chaleur qui seule le raréfie, et l'intempérie de l'air fit avorter les fruits qui se flétrirent avant que d'arriver à leur maturité. Rien ne prouve davantage combien le meurtre de César avait déplu aux dieux que le fantôme qui apparut à Brutus. Voici cette histoire. Brutus disposait à faire passer son armée d'Abydos au continent opposé et se reposait la nuit dans sa tente, suivant sa coutume, s'endormir et réfléchissant sur l'avenir. Car il n'y eut jamais, dit-on, de général qui eût moins besoin de sommeil et que la nature eût fait pour supporter plus longtemps l'activité des veilles. Il lui sembla entendre quelques bruits à la porte de sa tente. Et en regardant à la clarté d'une lampe prête à s'éteindre, il aperçut un spectre horrible, d'une grandeur démesurée et d'une figure hideuse. Brutus fut d'abord saisi d'effroi, mais quand il vit que le spectre, sans faire aucun mouvement et sans rien dire, se tenait en silence auprès de son lit, il lui demanda qui il était. « Brutus, lui répondit le fantôme, je suis ton mauvais génie, et tu me verras, Philippe. » Eh bien, reprit alors Brutus d'un ton rassuré, je t'y verrai. Et aussitôt le spectre disparut. Quelque temps après, à la bataille de Philippe, contre Antoine et César, Brutus, vainqueur à la première attaque, renversa tout ce qu'il trouvait devant lui, poursuivit les ennemis en déroute et pilla le camp de César. Il se préparait à un second combat, lorsque le même spectre lui apparut encore la nuit, et sans proférer une seule parole. Brutus comprit que son dessein était accompli, et se jeta tête baissée au milieu du danger. Cependant, il ne périt pas dans le combat. Ses troupes ayant été mises en fuite, il se retira sur une roche escarpée, où il se tua en se jetant sur son épée, aidé, dit-on, d'un de ses amis, qui appuya le coup pour le rendre mortel.